VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 25 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, l'opposition a continué à appeler sans grand écho à la mobilisation contre la réélection du président sortant Faure Gnassingbé.
Au Burkina Faso, la police a annoncé que 4 personnes, dont 3 policiers, ont été tuées dans une embuscade dans le centre nord du pays.
Au Cameroun, la présidence a rejeté hier soir ce qu'elle a appelé les propos surprenants du président français Emmanuel Macron.
En République démocratique du Congo, les magistrats ont suspendu leur grève et reprennent le travail aujourd'hui.
Effondrement des bourses mondiales face à l'accélération de la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine.
En Inde, après l'accueil spectaculaire d'hier à Ahmedabad, entretiens bilatéraux aujourd'hui à New Delhi pour le président américain Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, l'opposition continue de contester la victoire du président Faure Gnassingbé, élu pour un 4e mandat dès le premier tour de l'élection de samedi. Hier, l'opposant Agbeyome Kodjo a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Ungbo.
Agbeyome Kodjo n'en démord pas malgré la publication de la Commission électorale nationale indépendante du vainqueur du scrutin du 22 février. Après s'être autoproclamé dimanche élu du Togo, hier encore il a déclaré être le gagnant de la présidentielle de samedi dernier.
En conséquence, les acteurs de la dynamique, Monseigneur Kodjo, rejettent catégoriquement les chiffres communiqués par la CENI et interpellent les missions d'observation électorale et la communauté internationale afin qu'elle prenne des dispositions idoines.
L'ancien Premier ministre s'exprimant au nom du collectif des acteurs de la dynamique, Monseigneur Kodjo, a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes.
Il lance un appel vibrant aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre le suffrage.
Mais pour l'heure, son appel à manifester n'a pas été suivi. Dans un communiqué, l'ANC de Jean-Pierre Fabre a dénoncé au même titre que le collectif de la dynamique Monseigneur Kodjo une fraude massive lors du scrutin de samedi. Irénée Herman Ungbo, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, des individus armés non identifiés ont tué lundi matin 4 personnes, dont 3 policiers, dans une embuscade contre une unité d'intervention dans le centre nord du pays. L'attaque a eu lieu sur l'axe Pisila-Djibga, dans la province de San Matenga, a annoncé la police dans un communiqué. Il y a eu aussi 5 blessés. Mardi dernier, 3 soldats ont été tués au cours d'une attaque terroriste contre un détachement militaire à Kelbo, localité située dans la province du Soum, dans le nord du pays.
Au Cameroun, la présidence s'est offusquée lundi soir de ce qu'elle a appelé les propos surprenants du président français Emmanuel Macron. Ce dernier avait samedi promis de mettre la pression sur son homologue Paul Biya pour que cessent des violences au Cameroun qui sont intolérables. Le président camerounais est, selon le secrétaire général Ferdinand Ngongo, je cite, « comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce un ami ». Fin de citation. Pour accomplir sa mission, a dit encore M. Ngongo, le président Biya n'a pas besoin pour ce faire de pression extérieure.
Au Burundi, selon les autorités, au moins 13 bandits armés et un policier ont été tués dimanche dans la province de Bujumbura rurale lors d'affrontements avec les forces de l'ordre appuyées par les jeunes du parti au pouvoir. Le point avec Eddy Issango.
Selon Jean-Pierre Nyongabo, administrateur de la commune de Mutambu, un groupe de bandits armés, un terme pour désigner les rebelles, est entré dans sa commune où la population et les forces de l'ordre les attendaient de pied ferme. Selon lui, les combats ont eu lieu pendant 2 heures sur la colline de Nyankere, à environ 30 km de Bujumbura, précisant que 13 bandits armés ont été tués et l'un d'eux a été arrêté. Il a aussi fait état d'opérations de ratissage pour retrouver les restes de la bande. 2 témoins ont confirmé les affrontements statement en expliquant que les Imbourani-Rakure, la ligue de jeunes du parti au pouvoir, dont certains armés des Kalachnikov, étaient en première ligne aux côtés de l'armée et de la police. L'annonce en 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat avait plongé le pays dans un cycle de violence. Monsieur Nkurunziza a surpris en annonçant en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas en 2020 alors que la nouvelle constitution le lui permet.
En République démocratique du Congo, les magistrats ont suspendu hier leur grève, entamée le 10 février, en vue d'exiger de meilleures conditions de travail. Le point avec Ekiabadou.
Cette suspension de la grève est un acte de bonne foi pour permettre la poursuite des négociations, a déclaré Edmond Issofa, président du syndicat national des magistrats. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, d'un côté réformer la justice pour lutter contre la corruption et de l'autre laisser les magistrats vivre dans la précarité, a-t-il ajouté, indiquant que le travail reprendrait dès aujourd'hui mardi dans les tribunaux. En juillet, le Conseil supérieur de la magistrature avait transmis au gouvernement des propositions de salaire et avant à payer à chaque magistrat congolais. La justice congolaise est souvent accusée d'être lente et corrompue, alors que le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. En 2018, Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats accusés de corruption. La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption établi par Transparency International dans son dernier rapport publié à la fin janvier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les bourses mondiales ont plongé dans le rouge face à l'accélération de la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine, ce qui fait craindre des répercussions macroéconomiques majeures. La bourse de Tokyo a ouvert la séance de mardi avec une chute supérieure à 4% pour le Nikkei. Les places financières chinoises ont également ouvert en repli mardi, mais moins marqué. Hier, à Wall Street, le Dow Jones a connu sa pire séance en plus de deux ans, avec une chute de 3,56%, et les places européennes ont clôturé sur des pertes comprises entre 3% et plus de 5%.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis signeront un accord pour vendre à l'Inde des hélicoptères et autres équipements militaires estimés à 3 milliards de dollars. M. Trump intervenait lundi à Ahmedabad en compagnie de son hôte indien, le premier ministre Narendra Modi, et en présence de 100 000 personnes participant à un meeting géant intitulé « Namaste Trump », bonjour Trump, pour lui souhaiter la bienvenue. En prélude à sa visite, le président Trump avait dit qu'aucun nouveau grand accord commercial n'était prévu lors de son séjour. Mais il s'est dit optimiste quant à la conclusion éventuelle d'un bon, voire grand accord pour les deux pays.
Ici aux États-Unis, l'ex-mania d'Hollywood, Harvey Weinstein, a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle et de viol. Un verdict immédiatement salué comme une nouvelle ère de justice par le mouvement MeToo. Il change le cours de l'histoire dans la lutte contre les violences sexuelles, a affirmé Cyrus Vance, le procureur de Manhattan, à la sortie du tribunal. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
À 67 ans, Harvey Weinstein est désormais passible de 29 ans de prison. L'ancien producteur a été écroué. Son avocate a annoncé qu'il fera appel. Le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Il s'agit de la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire MeToo, ce mouvement anti-agression sexuelle qui a commencé en octobre 2017. Tina Chen, présidente du mouvement Time's Up, évoque, elle, le début d'une nouvelle ère de justice. L'avocate d'Harvey Weinstein a déclaré que le combat n'était pas terminé et annoncé que le cofondateur du studio Miramax allait faire appel. Harvey Weinstein a toujours démenti toute forme d'agression, affirmant que toutes ses relations sexuelles étaient consenties. Ce verdict concrétise la chute d'un producteur de cinéma qui fut pendant 25 ans l'un des plus puissants au monde.
Poursuite hier soir des échanges de tirs dans la bande de Gaza entre le djihad islamique et Israël, et ce malgré les appels à cesser les hostilités qui font craindre une nouvelle escalade militaire à moins d'une semaine des législatives en Israël. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute éco, Nanit Talani.
Le Sénégal a officiellement inauguré ce lundi le parc éolien de Taïba Ndiaye, présenté comme le plus grand projet du genre en Afrique de l'Ouest. Depuis décembre, 16 éoliennes injectent 50 MW dans le réseau électrique national. En mai, le parc devrait à plein régime fournir une part significative du mix énergétique. À terme, avec 450 000 MW par an, le parc alimentera près de 2 millions de Sénégalais. Ses capacités pourraient être augmentées. Par ailleurs, Taïba Ndiaye permettra d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an. Africa Finance Corporation investit 63 millions de dollars pour construire et exploiter un parc éolien de 60 MW à Djibouti. Les travaux devraient démarrer en 2021. Le projet a déjà un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec le distributeur d'électricité de Djibouti. Pour terminer, en Côte d'Ivoire, plus de 45% de la production du cacao est certifiée durable et fait l'objet de primes comprises entre 70 et 200 dollars par tonne. Mais ces primes sont à 97% exclusivement accordées à cette multinationale avec lesquelles les producteurs locaux sont en concurrence. Les Ivoiriens veulent discuter avec les chocolatiers pour mettre fin à cette crise qui peut causer leur faillite et nuire à l'économie du pays. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire compte près d'un million de producteurs. Leur brun représente 10% du PIB ivoirien, 40% des recettes d'exportation et fait vivre 4 millions de personnes, soit un sixième de la population ivoirienne.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Zamalek se retire du championnat égyptien.
Oui, l'annonce a été faite par le président du club égyptien, Mortada Mansour. Une annonce qui intervient alors que le Zamalek a remporté vendredi la Supercoupe d'Égypte face à Al Ahly. Son deuxième titre en 7 journées après le sacre en Supercoupe CAF contre l'Espérance de Tunis. Mansour retire son équipe du championnat pour protester contre les sanctions à lui infligées et à son club à l'issue du match à Abu Dhabi. Les joueurs du Zamalek, Imam Achour, Chikabala et Abdallah Goma, ont respectivement écopé d'une suspension jusqu'à la fin de la saison, 8 matchs et 2 matchs. Ceci en rapport à des bagarres à la fin du match Zamalek-Espérance de Tunis disputé aux Émirats Arabes Unis.
Cyclisme avec l'étape 3 du Tour du Rwanda aujourd'hui.
Oui, le peloton ira de Houye à Rusizi, 142 km. Hier, l'Éthiopien Moulou Kimfe Haile Michael a enlevé l'étape 2 à l'issue des 120,5 km courus entre Kigali et Houye. Il a devancé le Colombien Jonathan Valencia et l'Érythréen Binyam Aïlou. Une performance sans conséquence sur le porteur du maillot jaune. Le Kazakh Yevgeny Fedorov garde la tunique de leader au classement général. Derrière Fedorov, on retrouve l'Érythréen Enoch Moulié-Béran et son compatriote Binyam Aïlou.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, le FC Barcelone se rend en Italie pour y affronter Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly pour le compte du match aller des huitièmes de finale. Le Barça, avec ses 5 titres dans la compétition, part favori contre le Napoli, qui n'a remporté que l'Europa League avec un certain Maradona en 1989. En Liga, les Catalans ont sorti un match référence samedi avec un festival offensif contre Eibar. Victoire 5-0 et un quadruplé de Messi, mais Naples, sixième de Serie A, reste sur 6 victoires en 7 matchs. Gros défi aussi pour Chelsea qui reçoit à Stamford Bridge le Bayern Munich avec sa série en cours de 11 matchs sans défaite, 10 victoires et 1 nul. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 20h, temps universel.
Dernier adieu à Kobe Bryant et Gianna.
Oui, environ 20 000 personnes, dont Vanessa Bryant et ses 3 autres filles, étaient présentes hier au Staples Center à Los Angeles. Elles ont rendu un dernier hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna, mort le 26 janvier dans un crash d'hélicoptère. Intitulé « Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant », cet hommage public s'est tenu à la date symbolique du 24 février. Cette date a été retenue car Kobe Bryant a porté le maillot numéro 24 pendant les 20 ans où il a joué avec les Los Angeles Lakers et aussi parce que sa fille, joueuse prometteuse, évoluait elle avec le numéro 2. Des stars du basket comme LeBron James, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, entre autres, sans oublier le patron de la Ligue, Adam Silver, ont assisté à la cérémonie de même que des célébrités de la musique, Jennifer Lopez ou du cinéma comme Spike Lee. On finit avec les résultats de la nuit dernière en NBA. Idrissa, c'est avec vous.
Match étrangement serré entre Milwaukee, un record de 49 victoires, et Washington, 20 victoires seulement, 137 à 134. Pas de problème pour Philadelphie face à Atlanta, 129 à 112, Dallas et Minnesota, 139 à 123, Houston et New York, 123 à 112, Orlando et Brooklyn, 115 à 113, et rendez-vous à 7h temps universel pour le résultat du match et les Clippers et Memphis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle du 22 février, la vie a repris son cours normal à Lomé. Pas l'ombre d'une contestation dans les rues de la capitale, selon notre envoyé spécial, Irénée Herman Ungbo. Il a tendu son micro à quelques habitants de la ville. Question de recueillir leur avis sur ce calme qui y prévaut, une première après une élection présidentielle dans le pays.
Les élections sont bien passées, sauf que les gens ont eu peur, et surtout que c'est la même personne qui gagne. Il y a certaines personnes qui ont dû traverser les frontières et autres. Donc personne ne veut plus être frappé, veut plus écrire sur son portail déjà frappé et autres là. Donc tout le monde a son cœur en main, tout comme on le dit en anglais, people are scared.
C'est pas les enfants de Beki qui barricadent les rues, ce sont des gens qui viennent un peu partout pour barricader les rues du quartier de Bay. Maintenant là, nous sommes là et puis nous avons dit, maintenant on est là et on verra celui qui viendra faire la barricade après la proclamation du résultat encore. Et puis, par la grâce de Dieu, ça va bien.
Tout le monde a compris quelque chose. C'est la première fois que ce silence règne au Togo. Tout le monde se bagarre pour rien alors qu'on n'obtient aucun résultat de ce dont nous faisons toujours ce lutte. Donc tout le monde a compris qu'on a qu'à laisser le monde agir. Donc si un autre jour, si Dieu veut, ce qui serait mieux, on nous donnera ça.
Ici au Togo, on ne sait pas ce qui se passe au juste, et c'est le même parti qui gagne les élections. Alors que selon ce que nous recevons sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui paraissent aussi vraies quand même. Même depuis hier, ce qu'on a été parcouru un peu dans nos portables, je pense que hier nuit, ça a été dit quand même que normalement ce soit à 24 heures, à 20 heures plutôt, que les élections seront proclamées. Mais c'est fait que hier nuit, après que vers la nuit tardive qu'ils ont proclamé les élections, c'est quelque chose qui paraît illégal. Ouais, non? Donc nous, on ne peut rien dire. On n'a pas de force, on n'a rien. En fait, c'est Dieu qui fait tout. Voilà, que Dieu donne longue vie à celui qui se croit gagner toujours et qui puisse construire son pays, c'est la bonne volonté.
Ces propos ont été recueillis hier, lundi, à Lomé, par notre envoyé spécial, Irénée Herman Ungbo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Des centaines de Camerounais ont manifesté ce lundi devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer les propos du président français Emmanuel Macron sur la manière dont le Cameroun gère le conflit dans ses régions anglophones. M. Macron avait promis samedi de mettre la pression sur son homologue Paul Biya. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Lionel Gahima.
Entre 400 et 600 jeunes, selon une estimation de la police et de la gendarmerie, se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Yaoundé. Ils ont chanté et dansé à la gloire de M. Biya tout en dénonçant l'attitude du président français. Alex Ndoumbé, un enseignant âgé de 30 ans, se dit mécontent de critiques d'Emmanuel Macron sur les droits de l'homme au Cameroun et la manière dont le président Paul Biya traite les rebelles anglophones.
Nous protestons contre ce que le président Macron a dit sur notre pays et surtout un président de son calibre. Il n'était pas censé parler comme ça dans un pays respecté comme le Cameroun, un pays qui s'est battu pour son indépendance depuis 1960. Ce que nous voulons de Macron, c'est qu'il demande pardon à notre président et à toute la nation. Nous dormirons ici parce que nous voulons qu'ils demandent pardon immédiatement.
La plupart de manifestants portaient des drapeaux du Cameroun. D'autres brandissaient des pancartes hostiles au président français. Ils ont nié les accusations selon lesquelles ils ont été payés par le gouvernement camerounais. Samedi à Paris, Emmanuel Macron a qualifié d'intolérable la situation des droits humains au Cameroun, promettant de mettre la pression sur M. Biya pour que cesse cette situation. Il répondait à un activiste camerounais qu'il avait interpellé au salon de l'agriculture sur 22 civils tués ce mois-ci dans une région anglophone. Des témoins ont affirmé que le 14 février, des hommes masqués en uniforme militaire ont lancé un raid sur un village, tuant des femmes et une dizaine d'enfants. L'armée camerounaise a nié avoir visé des civils, mais a parlé plutôt d'un accident malheureux. L'armée camerounaise assure qu'elle combattait des séparatistes lorsqu'une femme et quatre enfants ont été tués dans l'incendie d'une cachette rebelle. Le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué, a condamné à la fois l'activiste camerounais et M. Macron pour ce qu'il a qualifié d'exagération flagrante et des propos trompeurs sur la situation des droits de l'homme. Mais les critiques de Paul Biya ne sont pas de cet avis. Le prince Mike Ongwe c'est Ekosso, président du Parti démocratique socialiste, un parti d'opposition.
Je soutiens le président Macron. Il y a beaucoup trop de violations des droits de l'homme, particulièrement avec la crise anglophone.
Elvis Ngole Ngole, expert en relations internationales à l'université de Yaoundé, estime que Biya et Macron devaient se parler pour détendre l'atmosphère.
En raison de la position géostratégique du Cameroun, je pense que la France a beaucoup à gagner en gardant ses relations avec le Cameroun.
Depuis 2017, l'armée camerounaise lutte contre des rebelles séparatistes qui veulent créer un État anglophone indépendant appelé Ambazonie. M. Macron a déclaré qu'il prévoit d'appeler M. Biya cette semaine et de faire pression sur lui pour résoudre ce conflit qui a fait près de 3000 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Deux mois après l'apparition du nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, l'épidémie s'est accélérée lundi à travers le globe avec notamment des bilans en forte hausse en Corée du Sud et en Iran qui comptent respectivement le plus grand nombre de cas de contamination et le plus grand nombre de décès en dehors de Chine. L'Italie, qui compte désormais 7 morts, est devenue le premier pays d'Europe à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord. Et 5 pays ont annoncé lundi de premiers cas de contamination, Afghanistan, Bahreïn, Koweït, Irak et Oman. Pour le moment, aucun cas n'a été diagnostiqué en Afrique. Pourquoi et comment le continent a-t-il réussi à se protéger jusqu'ici? John Lyndon a joint le responsable du programme d'intervention d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville, le docteur Michel Yao.
L'Afrique reste à haut risque et donc le scénario d'avoir un cas reste probable et c'est d'ailleurs ce qui justifie la nécessité d'avoir un plan de préparation avec les différentes composantes. Donc on pourrait dire c'est juste par chance ou par coïncidence qu'il n'y a pas eu de cas, mais le risque reste élevé.
Quels sont les signes qui permettent de connaître que quelqu'un est atteint ou risque le coronavirus?
Il s'agit de quelqu'un qui provient d'une zone contaminée par le virus et qui a des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la grippe ordinaire. Donc une personne qui éternue, tousse, mais aussi selon les informations qu'on a eues sur le cas actuel en Chine, une personne qui pourrait aussi manifester la forme sévère avec une détresse respiratoire qui exige une certaine réanimation. Mais on met beaucoup plus l'accent sur des personnes qui proviendraient de zones déjà contaminées.
Et quelles sont concrètement les mesures que vous prenez pour éviter à l'Afrique d'être contaminée?
Ce sont des mesures de prévention, de détection rapide, d'isolement et de prise en charge de cas. Comme je dis, le risque d'avoir des cas est élevé et difficile à prévenir. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on ait un mécanisme qui puisse permettre une détection précoce et une prise en charge efficace pour éviter une contamination majeure au sein de la population. Donc ce sont des mesures de surveillance, de détection au point d'entrée, des mesures d'isolement et de prise en charge, des mesures de formation pour éviter une contamination du personnel, c'est-à-dire l'utilisation des équipements de protection, mais surtout aussi la sensibilisation et l'éducation des populations à reconnaître les signes, surtout des personnes qui auraient un historique de voyage dans le pays déjà contaminé.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures que vous évoquez sont appliquées?
Ces mesures ont été recommandées au pays pour certains en cours de finalisation, pour d'autres déjà réalisées. L'action la plus urgente, c'est vraiment le mécanisme de détection et aussi de confirmation que sont les laboratoires. Il y a un progrès qui a été réalisé. Nous en étions à 2 laboratoires il y a 2 semaines. Au moment où je vous parle, il y a 28 pays sur les 47 que notre bureau couvre qui ont déjà ce système en place.
Michel Yao, responsable du programme d'intervention d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président américain Donald Trump et son épouse Melania ont été accueillis en grande pompe en Inde où M. Trump a débuté hier une visite d'État de 2 jours. Le périple vise à nouer les relations commerciales entre Washington et New Delhi sur fond de conflit avec Pékin. Les États-Unis s'irritent toutefois du protectionnisme historique de l'Inde et jugent que les entreprises américaines n'ont pas un accès suffisant à son marché intérieur. Pour une analyse des liens américano-indiens, Jacques Aristide s'est entretenu avec Jean-Luc Racine. Il est directeur de recherche émérite au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris.
Au-delà de l'alchimie entre les deux leaders, une relation personnelle qui est d'ailleurs mise en avant, cette première journée du 24 février à Ahmedabad puis à Agra, c'est une journée spectacle. Le président Trump est revenu sur sa proclamation initiale. On croit savoir qu'il n'y aura pas d'accord majeur sur le plan commercial. Donald Trump a manifesté son irritation de voir que les échanges commerciaux nourrissent une balance déficitaire pour les États-Unis. Bon, c'est une vingtaine de milliards, c'est très peu de choses par rapport au déficit américain vis-à-vis de la Chine. Mais des mesures de rétorsion ont été prises, des traitements préférentiels ont été arrêtés. On a là un ensemble d'irritants. Il y en a un autre, c'est la question des visas pour les immigrants indiens qui viennent travailler aux États-Unis.
Mais l'Inde représente-t-elle un allié stratégique pour les États-Unis en Asie ? Qui voit donc en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région et même ailleurs dans le monde, comme en Afrique, par exemple.
Oui, à ceci près qu'il ne s'agit pas d'alliance, mais de partenariat. Et la distinction est importante parce que si l'Inde et les États-Unis ont véritablement solidifié leurs relations bilatérales, en gros, ça a commencé avec Bill Clinton quand il a fait une visite de 5 jours en Inde en 2000, en effaçant un peu les tensions qui avaient marqué les premiers essais nucléaires indiens officiels en 1998. Et depuis Trump, puis Bush, les choses donc se sont rapprochés en parallèle avec la montée en puissance de la Chine. Alors évidemment pour l'Inde, il y a 2 questions qui se posent. L'une, c'est le contentieux frontalier avec la Chine, comme avec le Pakistan sur la question du Cachemire. Mais la grande nouveauté, c'est la percée de la marine chinoise en océan Indien. Il s'agit pour l'Inde d'avoir un appui américain, essentiellement dans l'océan Indien, mais aussi de s'affirmer un peu plus dans l'océan Pacifique. Alors évidemment, c'est relativement secondaire pour New Delhi. Les Indiens ne vont jamais dire qu'ils accepteraient de jouer un rôle de contrepoids à la Chine sur injonction américaine. Mais en même temps, Narendra Modi garde quand même pour l'essentiel ce qui était la ligne diplomatico-militaire indienne avant lui, c'est-à-dire on renforce le partenariat avec les États-Unis, mais pas jusqu'à sceller une alliance en bonne et due forme, comme ça a pu être fait avec le Japon ou avec les Philippines avant que le président philippin décide, semble-t-il, de mettre un terme à cette alliance militaire.
Jean-Luc Racine, du Centre français d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, également chercheur senior à Asia Center, il était en ligne de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Calvin Fowler. Merci à Anna Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.